Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Ta parole dit que tu cherches de vrais adorateurs qui t'adoreront en esprit et en vérité. Je veux t'adorer.
Je vais vous raconter une petite histoire. Deux frères d'une même famille vivaient au centre des États-Unis. Ces deux frères étaient très connus pour leur brutalité, leur méchanceté et leurs mauvais coups, les vols, les rackets, les mensonges. Enfin, leur réputation était bien ancrée auprès de toute la population comme des personnes à surtout ne pas fréquenter. Un de ces deux frères meurt et son enterrement reste maintenant à la charge de l'autre. Bien conscient que la conduite de son frère pouvait poser quelques problèmes le jour du jugement, alors le survivant se dit que si un pasteur pouvait l'enterrer, le passage du jugement de Dieu serait peut-être moins difficile. Je ne sais pas exactement quel genre de théologie il avait, mais enfin voilà, c'était son idée. Alors, pour l'enterrement, il fait appel à un pasteur, en lui demandant de façon très absolue, de dire devant tout le monde que son frère était un saint. Le pasteur refuse, évidemment. Alors le frère survivant va voir un autre pasteur qui refuse. Et aucun des pasteurs que le survivant frère va voir accepte d'enterrer le mort avec cette obligation de dire qu'il était un saint. Alors, le frère dit, bon, il faut utiliser les grands moyens. Je donne $1,000 au pasteur qui va, c'est bien américain, je donne $1,000 au pasteur qui va dire à l'enterrement de mon frère que c'est un saint. Alors, un pasteur assez bien connu, assez bien renommé dans la région, dit, ben d'accord, moi je vais le faire et je vais dire cela. Alors tous ses collègues pasteurs disent « Mais c'est pas possible, tu vas te compromettre, tu ne peux pas le faire !»« Si, je vais le faire !» Et le jour de l'enterrement arrive, et tous les pasteurs étaient là. Non pas pour l'enterrement, mais pour savoir comment le pasteur allait se compromettre. Tout le monde était suspendu à ses lèvres lorsqu'il fit l'oraison funèbre. « Cet homme était un voleur !» Un homme aux pensées tordues, un menteur, un bandit, une brute épaisse et un truand. Mais c'était un saint en comparaison de son frère ici présent. Bon. Et qui sommes-nous, nous ? Et qui sommes-nous ? On pourrait dire, nous sommes des pécheurs. Bon, on va dire encore sauvés par grâce, bien sûr. Je vous propose, si vous voulez, puisque je voudrais parler de la famille, est-ce que notre vie chrétienne nous permet, est-ce que notre relation à Dieu, est-ce que le fait que nous sommes des enfants de Dieu va nous permettre à bien vivre dans nos familles ? J'ai l'impression parfois que, en fin de compte, il n'y a pas trop de différence entre des familles chrétiennes et des familles non chrétiennes. Un petit peu quand même, mais pas trop. Et je me dis, mais pourquoi ? Est-ce que une dame me téléphone et me dit, Bertrand, j'ai un problème. Mon mari et nous et moi, on s'est convertis il y a 20 ans. Mon mari lit la Bible tous les jours. Et c'est la catastrophe à la maison. Est-ce que l'évangile a une puissance pour nous changer ? J'en doute. Et si vous regardez bien dans nos propres vies, dans la vie de nos couples, dans la vie de nos familles, est-ce que vraiment l'évangile a un impact de transformation, de changement ? Et moi, je voudrais vous dire, peut-être, que notre lecture de l'évangile est mauvaise. Ce n'est pas l'évangile qui est mauvais, parce que l'apôtre Paul dit, c'est la puissance de Dieu à tous, à quiconque croit. Et c'est là le point. Et je voudrais faire ce point aujourd'hui. L'évangile est la puissance, pas seulement à salut, mais à puissance de transformation, de changement à quiconque croit. Mais croire quoi ? Et c'est là le truc. Nous avons une idée de Dieu. Est-ce que l'image que vous faites, la représentation que vous faites de Dieu, de Jésus-Christ et de vous-même, est vraiment scripturaire et vraiment biblique ce que Dieu dit de vous. Ou bien on a interprété certaines choses. Moi, je voudrais vous montrer ce matin, et c'est bon pour les jeunes, et c'est bon pour nous les plus âgés, comment Dieu nous voit et comment, en quoi Dieu nous a placés, ce qu'il a fait de nous, et comment cela va nous permettre d'expérimenter la puissance de Dieu parce que nous croyons ce que Dieu a fait de nous. Si vous voulez ouvrir vos Bibles dans Colossiens chapitre 3, verset 12. Colossiens chapitre 3, verset 12, quelques versets, jusqu'au verset 15. Et je vais interpréter ces versets dans le contexte de la famille. C'est ici dans le contexte de l'Église qui est la famille de Dieu, et on peut transposer cela dans nos familles. En fin de compte, il n'y a pas d'Église, il n'y a pas de famille. Vous êtes d'accord avec moi? La famille de Dieu est constituée de familles. Et nous vivons l'Église comme nous vivons en famille. C'est pas plus difficile que ça. Verset 12, Colossiens 3, 12. Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, des saints et bien-aimés, d'entrailles, c'est-à-dire d'intérieur, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux autres, si un a un sujet de plainte contre un autre, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, en un seul corps, préside dans vos cœurs. Et puis finalement, soyez reconnaissants. Bougez, quoi. C'est ça. Votre cœur explose. Soyez reconnaissants. Parce que Dieu a fait de vous. Je voudrais vous montrer, dans les 40 minutes qui me restent, que nous ne sommes pas destinés à vivre dans la médiocrité, à être des perdants, à penser que, de toute façon, la vie de couple, c'est peine perdue. Nous sommes tellement différents qu'on ne va jamais y arriver. Quand la vie de famille est une galère. Je voudrais vous montrer que Dieu ne nous destine pas à être des losers, à des perdants, mais à être des gagnants. Et il nous en donne la capacité. Dieu nous a donné la capacité de marcher dans ses voies. On va commencer au début. Le premier terme, il est dit, revêtez-vous donc. C'est un impératif. C'est une obligation, c'est un ordre. Et si Dieu nous donne des ordres, c'est pas forcément qu'il nous remet sous la loi de Moïse, mais il nous donne des ordres. Et s'il nous donne des ordres, il nous donne aussi la capacité, la compétence pour y répondre à cet ordre et accomplir ce qu'il nous demande. Ah oui, mais comment? Ah ben, on va le voir. La question, c'est où est-ce que je vais puiser la puissance pour faire ce que Dieu me demande? Je suis thérapeute de couple. Quand je reçois des familles ou des couples, la grande question, c'est... expliquez-moi un petit peu. Ah, c'est un problème de communication. Ça, c'est typique. Ou bien autre chose, mais ça, c'est typique. Et moi, je me dis, mais je vais pouvoir leur expliquer comment ça marche, la communication. Ils pourraient faire un stage d'une semaine sur la communication. Et il y a des stages excellents. Mais quand il y a un problème de couple et que... Je vais être un petit peu sévère pour nous, les hommes. Nous, les gars, on la ferme, on se tait et on la boucle alors qu'on devrait exprimer nos sentiments, on devrait exprimer quelque chose. Tout le séminaire ne nous sert de rien. Pourquoi ? Parce qu'au moment où il faudrait qu'on amène du changement, il n'y a pas la puissance en nous. La connaissance est une chose, mais n'amène pas le changement. Vous êtes d'accord avec moi? Il nous faut une puissance dans notre vie. C'est là où l'Évangile est la puissance de Dieu à quiconque croit. Qu'est-ce qui va faire que quand je dois donner une parole de bienveillance à ma femme, que je dois supporter la différence, comprendre que ma femme est différente de moi et je ne pourrai pas la changer, mais je dois voir la différence comme un ajout à ma vie, qu'est-ce qui va me donner la puissance du changement? Et Dieu dit, revêtez-vous. C'est un ordre. Et quand il nous donne un ordre, il nous donne aussi la capacité. Et la réponse est dans les mots suivants. Regardez, Colossiens 3:12. Revêtez-vous comme des élus de Dieu, des saints et des bien-aimés. Parce que vous êtes des bien-aimés, parce que vous êtes des élus de Dieu, parce que vous êtes des saints, revêtez-vous, c'est le mot-clé de ce passage-là. C'est parce que Dieu a fait de nous des élus, des saints et des enfants bien-aimés que je peux maintenant agir et répondre. Je ne suis plus laissé à mes propres dépendant de mes propres ressources, mais je suis maintenant en Christ. Et en Christ, Dieu me voit. Comment ? Élu. Allez-y. Saint et un enfant bien-aimé. Nous ne sommes plus donc laissés dépendants de nos propres ressources, nous ne sommes plus obligés de nous dépatouiller pour savoir comment est-ce que je peux faire pour être dans la faveur de Dieu. Je suis dans la faveur de Dieu. L'Évangile est une puissance à quiconque croit. On accepte bien le salut, le pardon de nos péchés, Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. Est-ce que vous acceptez que vous êtes un élu de Dieu, un saint et un enfant bien-aimé? Est-ce que vous l'acceptez de la même manière que vous avez accepté le salut? L'Évangile est une puissance de Dieu à quiconque croit. Parce qu'il n'y a pas seulement la vérité du salut, il y a la vérité de ce que nous sommes devenus en Christ. Je vais vous montrer quelque chose, surtout pour les jeunes. Allez, on va dire que ça, c'est ma vie. C'est ma vie. Elle n'est pas jojo, hein. Je vous assure, je ne suis pas fier de ma vie. Quand je me vois, quand je me regarde, je ne suis pas fier de ma vie. C'est pour ça qu'à 15 ans, j'ai reçu le Seigneur de ma vie dans une réunion d'évangélisation. Mais davantage pour avoir un passeport pour aller au ciel et ne pas être condamné. Je comprenais ces choses-là. À 21 ans, j'ai aimé le Seigneur de tout mon cœur. Je me suis attaché à lui et j'ai compris que si ça c'est Jésus-Christ, je suis caché en lui. Ma vie est cachée en lui. Je suis uni à lui. Et quand Dieu me voit, il me voit, il voit quoi ? Jésus-Christ. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Je suis uni au Seigneur. Il a fait de moi un élu de Dieu. Son élu. Il a fait de moi son bien-aimé. Il m'a donné d'être saint. Les caractères de Jésus-Christ sont sur moi. La vie de Jésus-Christ est en moi. Je suis en lui. Et on va aller voir tout à l'heure, plus loin, je ne suis pas seulement en lui, mais lui est en moi. On va. Vous vous rappelez de l'histoire de Mephibosheth ? Ça vous dit quelque chose ? William, tu t'en souviens ? Non, Mephibosheth, je te rappelle en 3 minutes, Mephibosheth était le fils du copain, grand copain de David, Jonathan, fils de Saül. Et quand il y a eu cette guerre finale où Saül et Jonathan ont été tués, la servante ou la nourrice de Mephibosheth, donc le petit garçon qui avait environ 5 ans, dans sa précipitation pour l'exil, a laissé tomber cet enfant. Et il a été boiteux. Et voilà, il boitait. Des années plus tard, quand David était maintenant roi et à Jérusalem, tout à coup, comme il se souvient de l'alliance qu'il avait fait avec son grand ami Jonathan, et il dit, et reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül ? D'accord. Et on lui dit, oui, il y a encore un quelqu'un qui s'appelle Mephibosheth, c'est le fils de Jonathan, il est à Lodebar. C'est un petit village caché et élu. Et donc, qu'on l'amène. Alors évidemment, on peut imaginer tous les sentiments de ce Mephibosheth qui était un adulte boiteux. Or, la Bible dit que les boiteux ne devaient pas rentrer dans Jérusalem. Et puis voilà, et lui, Méphibosheth, la trouille au ventre, vient voir David parce qu'il pensait que ça y est, il veut l'exterminer puisqu'il est de la maison de Saül et ça serait un potentiel concurrent. Voilà. Et alors, David lui déclare, Méphibosheth, à partir d'aujourd'hui, tu mangeras à la table du roi. Et Méphibosheth a dit, mais qu'est-ce qui se passe que tu uses de la bonté de Dieu pour regarder un homme tel que moi, qui n'est pas qui, comme un chien mort. Il se regardait lui-même comme un chien mort. Et maintenant Méphibosheth, tous les jours, on s'occupait plus de sa blessure, on s'occupait plus de son handicap, parce que c'était sous la table. Et là, il était en relation. Il a accepté cela. Et nous, on a du mal à accepter la position dans laquelle Dieu nous a placés. Nous sommes en Christ. Et notre destin est lié à la vie de Jésus-Christ. Absolument lié à la vie de Jésus-Christ. L'évangile est la puissance de Dieu à quiconque croit. Pourquoi acceptez-vous? Vous êtes incollable sur l'assurance du salut, j'en suis sûr. Et pourquoi vous n'acceptez pas, je ne dis pas que vous, je parle en général, pourquoi ne pas accepter ce que Dieu a fait de nous? On est dans sa proximité, on est dans sa faveur, on est dans sa... on est ses propres enfants et nous acceptons bien cela de façon très intellectuelle. Mais pratiquement, on vit comme si on était encore en Adam ou en nous-mêmes, séparés de Dieu. Pourtant, la Bible dit que nous sommes des élus de Dieu, des saints et des bien-aimés. Je suis un bien-aimé de Dieu. C'est dommage pour vous, mais le chouchou là-dedans, c'est moi. Personne ne réagit? Voilà, merci bien. Merci bien, merci bien. Nous sommes vus par Dieu qui est maintenant notre Père, comme ses propres enfants. Et si vous lisez le Fils prodigue, vous voyez Dieu qui est symbolisé par le Père là. C'est la seule fois dans la Bible qu'on voit Dieu courir. Si vraiment le Père est Dieu, c'est la seule fois que on voit Dieu courir. Il a un amour pour nous, un amour extravagant. Il ne s'occupe pas de la dignité de ce qu'on va penser. Il a donné son propre fils, il se donne lui-même pour me sauver. Je suis un homme béni parce que le regard de Dieu est tellement positif sur moi. Dieu m'aime. Ça te fait quoi? Dieu t'aime. Tu devrais être sur ta chaise. On ne se rend pas compte, mais nous sommes aimés de Dieu. Nous ne sommes pas seulement aimés de Dieu, nous sommes bien aimés de Dieu. Alors peut-être vous n'allez pas être d'accord avec ce que je vais dire comme ça, mais je peux vous prouver quand même que c'est juste. Le jour du baptême du Seigneur Jésus-Christ, Jean était là, tout à coup il y a une voix qui descend du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. Ok, imaginez le Seigneur qui entend cette voix. C'est juste avant son ministère de 3 années, où il va y avoir des difficultés, il va y avoir la contradiction des pécheurs contre lui-même, il va y avoir des attaques de Satan de toutes parts. Tout de suite après, il va y avoir les tentations. Et il entend cette voix-là. Dieu qui lui dit, tu es. Et il te dit, à toi aussi, tu es. C'est-à-dire, tu existes pour moi. Il nous dit d'abord, tu. Ça veut dire que là aussi, on existe. Tu es. Tu existes pleinement. On n'est pas un accident. On est unique. Tu es mon appartenance. On appartient à quelqu'un. On ne peut pas vivre sans cela. On est reconnu. On est accepté. On ne peut pas vivre en ce sens-là. Tu es mon fils, relation filiale, tu es ma fille. Mais là, il parle au Seigneur. Mais je vais vous montrer que c'est pour nous aussi. C'est un principe. Tu es mon fils bien-aimé. Et pas seulement aimé, mais bien-aimé. Mais la cerise sur le gâteau, c'est la deuxième phrase. Je trouve mon plaisir en toi. En toi, je trouve mon plaisir. Vous acceptez ça, vous ? Vous acceptez que Dieu trouve son plaisir en vous ? Pardon ? C'est une grâce qu'il trouve son plaisir en nous. C'est une grâce aussi qu'on l'accepte, c'est ça que tu veux dire ? Oui, ben oui, parce que c'est trop, c'est trop, c'est trop. Mais si vous voulez une analogie, moi je vois ma petite fille, j'ai une petite fille qui est née là, je trouve beaucoup de plaisir en elle, mais elle n'a rien fait pour cela. C'est mon cœur vers elle. Je trouve mon bonheur, quand je vois comment ma femme, elle devient mamie gâteau, quoi, je veux dire, ses petits-enfants, eh ben oui, c'est ça. C'est l'amour extravagant. L'amour qui, on ne comprend pas d'où ça vient, c'est, on n'aime pas parce que l'autre fait, on aime l'autre parce qu'il est. Ça, c'est extraordinaire. Pourquoi vous n'accepteriez pas ça ? Quels seraient les empêchements d'accepter une telle position ? Attendez. C'est nous qui nous tirons une balle dans le pied, hein ? Si le christianisme ne marche pas dans notre vie, c'est parce que nous n'y croyons pas. On croit au salut, bien sûr. Mais l'évangile est la puissance de Dieu à quiconque croit dans cela aussi. Et si vous voulez, parce qu'il y a des pasteurs qui m'ont reproché de dire ça, alors je vais vous expliquer que je me suis penché une fois pendant des semaines et des semaines, je n'ai lu qu'un seul verset de la Bible. C'était le dernier verset de Jean 17. C'est, vous vous rappelez, le Seigneur, la prière du Seigneur à son Père. Le dernier verset dit comme ça, quatre propositions. Je leur ai fait connaître ton nom. Donc ça c'est quand le Seigneur était sur la terre. Philippe dit, montre-nous le Père, ça nous suffit. Regarde-moi et tu verras le Père. Ok. Deuxième proposition, et je leur ferai connaître. C'est aujourd'hui, le Seigneur, le travail du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, dans la gloire, dans nos vies, c'est que nous puissions connaître différentes facettes du nom de Dieu. Troisième proposition, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. C'est pas ça ? C'est pas ça ? Afin que l'amour dont tu m'as aimé, nous sommes aimés du même amour qu'a été aimé le Seigneur Jésus-Christ. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Quatrième proposition, et moi, continue, en eux, et moi en eux. Dieu ne nous laisse pas, ne nous demande pas de faire quelque chose alors qu'il ne nous en donne pas la puissance. Et l'amour de Dieu, qui est le même que cet amour qu'il avait pour Jésus-Christ, son Fils, est le fait même que Christ m'habite. Christ vit en moi. Comme je suis là, Christ m'habite. Aucun problème avec ça. Est-ce que c'est orgueilleux de dire ça ? Non, c'est simplement biblique. Christ m'habite. Je suis habité par une personne qui est la personne de Jésus-Christ. Et donc, je suis bien-aimé. Imaginez que, vous savez, c'est important de comprendre ça. Souvent, nous avons eu des regards différents. Je me rappelle dans cette histoire, dans ce train où j'allais faire une réunion, et puis j'étais dans un compartiment avec une jeune femme, peut-être de 25 ans, et son petit garçon de 2 ans, et on a commencé à parler et tout ça. Et tout à coup, elle me dit, mais vous savez, monsieur, moi, de toute façon, je suis rien du tout, moi. Et mon père me l'a bien dit. On était deux sœurs à la maison. J'avais une sœur qui était très belle et très claire et très souriante et magnifique. Et moi, je suis quelconque. De toute façon, mon père a raison. Il m'a toujours dit qu'il m'avait trouvé dans une poubelle. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Dieu ne le dit pas ça. Et nous, nous avons cru certains messages qui nous ont été amenés. Nous avons pris ça comme argent comptant. Mais ce n'est pas la vérité. Qui est légitime pour dire qui vous êtes? Dieu lui sait. Dieu lui-même. Dieu lui-même. Et lui, il va exactement vous dire, sans concession, mais avec tout son amour et toute sa bienveillance, il va nous dire qui nous sommes. Et donc, voilà, je suis en train de dire ceci, c'est que Dieu nous voit en Christ. Et quand il nous voit en Christ, il nous voit comme ses bien-aimés, comme des saints, comme des élus. Il nous voit en Christ. Et encore une fois, cette idée d'être en Christ, d'être en Christ. Quelles sont les conséquences d'être en Christ? 1 Corinthiens 1:30, à apprendre par cœur pour dimanche prochain. Vous êtes de Dieu dans le Christ Jésus. Vous êtes de Dieu dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus qui a été fait pour nous, rédemption, sanctification, sagesse et sainteté. De telle manière que moi, Bertrand Audéhoud, je peux me glorifier. J'ai jamais compris ça. J'ai mis des années pour comprendre ça. Non, mais un homme ne peut pas se glorifier. Mais Bertrand, t'es en Christ. Bertrand, t'es en Christ. T'es en Christ. Autant que vous dites, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je me rappelle le premier gars qui s'est converti. J'étais missionnaire pendant 15 ans, 14 ans en Afrique. Et on est arrivé dans la pointe noire, dans le Congo-Brazzaville. Et la première personne qui s'est convertie était un jeune qui avait comme idole Michael Jackson. Et le jour où il s'est converti, il a dit à sa mère, « Allez, tu rases tout ça, c'est fini, moi je vais suivre le Seigneur. » Un jour, on était dans une étude biblique, donc il y avait beaucoup de gens qui venaient, et on avait mis de la musique et tout ça. Et il commençait à danser. Je dis, « Oh, Ernest, quand même, vous savez, moi je suis un peu des relents de religion comme ça, hein, le respect, puis la dignité, vous savez, hein, ça. » Et il dit, « Mais Bertrand, il faut danser, je suis sauvé, je suis sauvé. » Il se glorifiait de quoi? Du salut que lui-même avait opéré. Non, pas du tout, mais parce qu'il était en Christ. Vous voyez, on a le droit de se glorifier parce que la vie de Christ, nous sommes liés à tout ce que Jésus-Christ est. À sa mort, nous avons été liés à sa mort, nous avons été liés à sa crucifixion, à sa mort, à son ensevelissement, à sa résurrection. Et nous sommes liés aujourd'hui à sa vie. C'est pour ça que notre vie chrétienne est extraordinaire. Parce que non seulement Christ est mort pour mes péchés, mais il vit aussi pour ma délivrance temporelle tous les jours. Vous me voyez? Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est pour ça que Christ est vivant. Alors maintenant, je n'ai plus besoin de faire quelque chose pour être désirable. Je n'ai plus besoin. Pourquoi? Pourquoi j'ai plus besoin? J'ai plus besoin de tirer sur mes chaussettes pour être plus près de Dieu. Pourquoi? Parce que je le suis. Je fais la joie du Père. Vous savez, quand on chante le petit chant que vous connaissez de Néhémie 8-10, là, vous connaissez la joie de l'Éternel? Non, c'est pas ça? Quelqu'un peut juste l'entonner là? Force. Ok. La joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Ma force est dans la joie de l'Éternel. Ok, la question. C'est quelle joie? C'est que. Pourquoi qu'il serait joyeux? Pourquoi c'est ma force? Absolutely. Il a son plaisir en nous. Il a son plaisir en nous. Et nous, on interprète ça. Oui, moi je suis joyeux et ça c'est ma force parce que je me réjouis en Dieu. Non, c'est pas moi qui me réjouis en Dieu. C'est aussi juste. Mais là, c'est Dieu qui se réjouit en moi. Et ça c'est ma force. Je suis pleinement accepté. Pleinement accepté. Et non seulement cela, mais je suis habité. Et Paul va plus loin. Et dit, moi, je suis crucifié avec Christ. Il avait tout compris, lui.
il avait compris que même quand Christ était sur la croix, Dieu le voyait déjà là. Et il dit, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Et on connaît tous par cœur ce verset de Galates 2:20. C'est pardon. Pardon. Vas-y. Oui, tu vas trop vite, c'est pour ça que je ne comprends pas. C'est Christ en moi. Et les circonstances que je vis aujourd'hui, frère, tu es entrepreneur, hein? Tu vis ton entreprise avec Christ en toi? C'est ça, c'est le principe, c'est le principe. Et les circonstances que je vis aujourd'hui, je les vis dans la foi au Fils de Dieu, dans la foi. L'évangile est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Je le vis dans la foi. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Les circonstances que je rencontre, et frères et sœurs, Dieu va faire le mieux qu'il peut pour que nous rencontrions des circonstances qui nous dépassent. Pourquoi ? Pour qu'on ait besoin de lui et qu'on ne compte pas sur nous-mêmes. Et qu'on apprenne cette collaboration avec lui, qu'on apprenne cette marche avec lui. La question subsidiaire ou la question cohérente après ce verset de Galates 2:20, c'est quoi ? Seigneur, toi et moi, on fait quoi ? C'est toi qui vis en moi. Ça n'empêche pas qu'on reste nous-mêmes dans notre personnalité. Mais Seigneur, toi et moi, on fait quoi ? L'autre jour, je vais souvent à Strasbourg. Et j'avais oublié mon portefeuille. J'ai pu prendre le train parce que j'achète des tickets là et que je mets dans mon sac, mais mon portefeuille, j'avais laissé dans la voiture. Et donc, j'arrive à Strasbourg, je veux prendre mon portefeuille parce que j'ai pour prendre un ticket de tram. Pas de portefeuille. Ma réaction première, c'est quoi ? Quelle serait la vôtre ? Punaise ! Quel idiot ! Ma réaction première, c'est Seigneur, voilà, j'ai oublié mon portefeuille, on fait quoi tous les deux ? Juste ça, on fait quoi tous les deux ? Deuxième pensée qui me vient, je me réjouis de voir comment tu vas me délivrer. Bien sûr que c'est de ma faute, mais il n'y a pas de condamnation sur moi. Il n'y a pas de condamnation. Pourquoi ? Parce que je suis en Jésus-Christ. Romains 8:1, il n'y a pas de condamnation. J'accepte ça. L'évangile est la puissance de Dieu à quiconque croit. Il n'y a pas de condamnation. Et ce que j'ai vécu après est extraordinaire. Ma vie, je ne conçois pas ma vie chrétienne autrement que cela. Je veux voir le bras de Dieu bouger. Et les circonstances que je rencontre tous les jours me dépassent. De toute façon, ça va me dépasser. Je ne peux même pas... Est-ce que cette paire de lunettes est lourde ? Non. Elle n'est pas lourde. Naturellement, je peux la porter. Même la moindre petite chose dans ma vie va devenir très vite pesante. Je ne peux rien faire sans lui. C'est ce qu'on doit apprendre. On doit apprendre cela. Pourquoi je vous parle de ça ? Maintenant, je vais passer le dernier quart d'heure pour comment appliquer cela. Parce que ça, c'est la veine du christianisme. C'est le moteur du christianisme. Sinon, ça n'a pas de sens, notre christianisme, si j'ai juste pour la vie éternelle. Non, ça n'a pas de sens. Et ça ne va pas nous satisfaire. On va tomber vite dans la religion. Et la religion, mais ce n'est pas divin, ça. Ce n'est pas de Dieu. Vous comprenez dans quel sens je parle religion ? Ce qu'il veut, lui, c'est cette collaboration. Et donc, il y a cette possibilité de changement à cause de la position dans laquelle Dieu m'a placé. Il m'a redonné des compétences pour vivre selon la dignité d'un enfant de Dieu. C'est la puissance de la vie de Christ qui m'habite, qui est en moi. Alors, comment ça va s'exprimer au milieu de ma famille, dans mon couple et aussi avec mes propres enfants ? Et on pourrait étendre cela à la famille de Dieu. Revêtez-vous de bonté. Vous voyez, on peut décider maintenant pour la bonté. On peut décider pour la bonté. On n'a pas besoin de vivre dans la dureté. D'abord, la Bible dit par rapport à la bonté, qu'est-ce qui attire chez un homme ? Qu'est-ce qui attire ? C'est son portefeuille, sa voiture, ses capacités, son sport, sa prestance, tout ça. Ok, mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Qu'est-ce qui attire chez un homme? C'est sa bonté. C'est sa bonté. Et donc, la bonté, ça se cultive. Et vous pouvez être un colérique, vous pouvez être quelqu'un qui a eu l'habitude de balancer tout parce que, voilà, votre tempérament, c'est comme ça. Eh bien, vous pouvez changer. Pourquoi? Parce que Christ vous habite. Et quand vous allez lui poser la question, « Ok, Seigneur, normalement, j'éclate, là. » Et toi et moi, on fait quoi? Et vous le saurez. Vous le saurez. Je crois que la vie chrétienne, c'est par le fait de l'habitude, comme dit Hébreux 5, par le fait de l'habitude, les hommes matures, les hommes et les femmes mûres, par le fait de l'habitude, ces hommes et ces femmes ont les sens spirituels aiguisés pour discerner le bien du mal. À fur et à mesure que vous allez poser la question, parce que Christ vous habite, vous allez discerner sa voix. Ça sera toujours un peu difficile pour le discernement. Mais le discernement, ça ne vous tombe pas dessus. Le discernement de sa volonté, ça s'acquiert. Jour après jour, instant après instant, jour après jour, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. Et tout à coup, on voit un jeune homme, une jeune fille de 25 ans. Ça fait depuis l'âge de 15 ans, elles ont pris l'habitude de marcher avec le Seigneur, de poser des questions. Seigneur, toi, qu'est-ce que tu en penses là? Comment est-ce que je dois réagir? Comment est-ce que je dois faire? On me propose ça, et toi, t'en penses quoi? Comment est-ce qu'on fait? Dans toutes les circonstances qui nous dépassent, même toutes les circonstances vont nous dépasser. À un moment donné, on va se dire, mais attends, je ne peux pas vivre seul. Ben non, tu n'es pas destiné à vivre seul. Eh bien, vous allez voir qu'il y a des jeunes, et moi je vous encourage les jeunes, à 25 ans, d'être des hommes et des femmes de Dieu, des leaders, qui montrent, non pas en prêchant et en allant, et non, simplement par votre conduite, par le fait que vous savez discerner les choses, parce que vous marchez avec le Dieu vivant et vrai. C'est ça, d'être des leaders. Mais à 25 ans, c'est possible. Bien sûr, bien sûr. Et puis après, il est dit, revêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous, c'est un ordre, revêtez-vous d'humilité. Oui, on ne peut pas. Alors ça, c'est difficile, hein, parce que quand vous avez l'assurance de la présence de Dieu, vous êtes juste sur le fil du rasoir. Il vous faut de l'assurance pour marcher avec le Seigneur. Et d'un autre côté, il faut que vous soyez bien certain que vous, par vous-même, et de toute façon, on ne vous demande pas de travailler par vous-même et de vivre par vous-même, mais de votre, on peut avoir des accidents. Alors, on dit toujours, Seigneur, ok, j'accepte tout ce que tu me dis, mais je me méfie de moi-même. L'humilité. L'humilité, c'est difficile. C'est difficile, surtout que, quand le Seigneur nous fait faire des progrès, quand le Seigneur manifeste sa vie, sa main nous délivre, on pense que ça y est, j'y suis arrivé. Et puis boum, il nous rappelle que, oh oh, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. L'humilité, c'est pas mal parler de soi. Ça, ce n'est pas de l'humilité. Mal parler de soi n'est pas de l'humilité. Et Dieu ne parle pas mal de nous-mêmes. Ça, c'est de la fausse humilité. C'est ne pas prendre Dieu au sérieux. À fur et à mesure qu'on dit « Non, je ne peux pas, je suis ici, ça, je me plains, je suis dans la plainte, zan, hein. » Alors, non, mais c'est un manque de foi. Dieu ne dit pas ça de toi. Dieu dit que tu peux le faire. Pourquoi? Parce que Christ t'habite. Mais en même temps, méfie-toi de toi-même. C'est l'humilité. Et donc, l'apôtre Paul nous dit d'avoir un regard juste sur nous-mêmes. Romains chapitre 12. Pas au-dessus de ce qu'il convient d'avoir. C'est à veut dire que l'orgueil n'est pas obligatoire. Revêtez-vous de patience et de support. Eh bien, c'est assez difficile dans nos couples, et pourtant Dieu le veut. Pourquoi il ne nous a pas fait pareil, hommes et femmes? Ça aurait été quand même plus simple, hein, parce que toute notre vie... Et pourtant Dieu dit, vive la différence, il faut la différence. Parce que je vais, alors moi j'ai, pendant, évidemment, je sais que vous avez été plus sage que moi, mais moi pendant des années j'ai essayé de changer ma femme. Ma femme évidemment ça n'a pas marché, vous pouvez en douter, elle est têtue, mais elle a fait la même chose avec moi, mais je suis aussi têtu qu'elle. Donc, vous voyez, ça c'est... Jusqu'au moment où quoi ? Jusqu'au moment où on a compris que Dieu voulait la différence et que je peux être enrichi par la différence de l'autre. Et que, en fin de compte, nous sommes complémentaires l'un de l'autre. À partir de ce moment-là, ça allait mieux, puisque je n'essayais plus de convertir ma femme à mes propres vues et à mes propres pensées, à mes propres représentations. On est différent, on a une psychologie différente, on a des corps différents, on a une éducation différente, un arrière-plan religieux différent, une histoire différente, on est différent. Et pourtant, Dieu nous montre que c'est possible de bien vivre en couple. On peut garder nos différences, on a le droit de garder nos différences. Mais ça nous apprend la patience, ça nous apprend le support. Et je ne comprends pas toujours ma femme, encore aujourd'hui, sur certains points. Elle, la même chose. Mais on peut se supporter. Pourquoi ? Parce que Christ habite dans mon cœur. Et quand j'arrive dans une situation, je dis, oh là, Seigneur, toi et moi, on fait quoi ? Voilà. Je vais un petit peu plus vite. Et puis finalement, l'apôtre Paul parle du pardon. Et on a tout à l'heure chanté la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous sommes tous touchés par le pardon, par le problème du pardon. Tous. Si vous, les frères, vous êtes en panne de prédication, une fois, vous ne savez pas de quoi parler, vous parlez du pardon, vous allez faire mouche, c'est sûr, 98%. Mais le pardon, c'est très facile d'en parler, jusqu'au moment où nous-mêmes, on doit pardonner. Ça, c'est très difficile. Parce que là, on peut connaître tout sur la théorie du pardon. Mais quand nous, on a été touchés par une offense, alors là, on doit tout réapprendre. Je vois ça pour moi-même. Le pardon, à famille, je t'aime, on en parle tout le temps. Mais quand moi, j'ai été offensé, alors pour pardonner à celui qui m'a offensé, c'est difficile. Et j'ai besoin de toute la présence du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Mais le Seigneur nous dit, pardonnez. C'est un ordre. Et on voit les gens dire, non, je ne peux pas pardonner. On dit, ok, tu n'es pas obligé de le faire tout de suite si tu n'es pas prêt, mais sache que tu seras acculé à cette situation de donner le pardon. Pourquoi on peut donner le pardon ? Et à quelles conditions on peut accorder le pardon à quelqu'un qui nous a offensés ? D'abord parce que nous avons été nous-mêmes pardonnés. Et si vous savez d'où vous avez été tiré et combien vous avez été pardonné, ne devenez pas celui qui devait beaucoup d'argent et qui a été pardonné et qui ne veut pas pardonner ou qui veut exiger le remboursement de sa dette à celui qui lui doit trois fois rien par rapport à ce qu'il devait. Donc nous pouvons pardonner parce que nous-mêmes, nous savons ce qu'est le pardon pour nous-mêmes. Le pardon, c'est divin. Le pardon, ce n'est pas humain. Alors les psychologues parlent du pardon, ils en parlent un petit peu, mais ils ne savent pas ce que c'est. Le pardon, c'est quelque chose d'impardonnable. Ça n'a pas de sens ? Le pardon, c'est pour des actions qui sont normalement impardonnables. Si vous pouvez justifier une action, vous avez déjà des excuses. Vous n'avez pas besoin de pardon puisque vous avez des excuses. C'est pour ça que le pardon est divin. C'est quelque chose qui n'est pas humain. Le pardon est pour quelque chose d'impardonnable. Vous me suivez ou pas ? Si vous êtes, pourquoi vous êtes converti ? Parce que vous ne pouvez pas justifier vos actes. Et le jour du jugement, il y aura la vidéo de toute notre vie, ou de la vie de ceux qui n'ont pas accepté de croire, et ils auront la bouche fermée. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura aucune justification possible. Eh bien oui, le pardon, on a offensé Dieu dans sa sainteté, et on n'a pas d'excuse. Si vous commencez à avoir des excuses, bon, ça y est, vous n'avez pas besoin de pardon puisque vous êtes justifié. Donc c'est quand même très important ça. Et nous, nous sommes capables du pardon parce que nous l'avons expérimenté pour nous-mêmes et parce que la vie de Dieu est en moi. Je suis participant de la nature divine, dit l'apôtre Pierre. Et pourquoi aussi pardonner ? Parce que le pardon, c'est le terrain de jeu favori de Satan. Et quand il n'y a pas de pardon, là, il se régale pour alors diviser les couples, diviser les familles, diviser aussi l'Église. Sans pardon, ça va être difficile. Pourquoi je pardonne ? Je pardonne aussi parce que, à celui qui m'a offensé, parce que je veux être totalement libre. Quand on ne pardonne pas, on a l'impression, non, je lui pardonnerai, avec tout ce qu'il m'a fait, ou tout ce qu'elle m'a fait, jamais je lui pardonnerai. On a l'impression que cette idée de vengeance va punir la personne. Mais elle punit qui, en fin de compte ? Soi-même. Donc, pardonnez non pas pour l'autre, mais pour vous-même, et pour être libre devant Dieu. Être libre. C'est grand ça, c'est immense. Je pardonne, même si l'autre n'a pas demandé le pardon, je pardonne pour être libre. Alors voilà, je vais m'arrêter là, mais souvent, je rencontre des gens qui disent, ah mais, bon, on va prier ensemble, Seigneur, je veux pardonner. J'arrête dans sa prière. Alors je suis un peu gonflé quoi, d'arrêter une prière, mais quand on dit « je veux pardonner », c'est que non, on ne veut pas pardonner. Ce n'est pas biblique ça. Le Seigneur dit « pardonner ». C'est un ordre. Pardonner, pardonner. Et on peut le faire. Quand je veux pardonner, ça veut dire que on va essayer de pardonner. Alors que le Seigneur dit « non, tu peux le faire parce que je t'habite ». Vous voyez, je vais conclure avec... Vous avez compris cette pensée-là ? Dieu ne nous demande pas si on veut pardonner. Il nous demande de le faire. Pourquoi ? Parce que Dieu ne nous voit pas par nous-mêmes. Une fois, il y a une missionnaire qui vient me voir, problème dans l'église avec une autre sœur, et on parle de ça. Je lui dis, est-ce que tu peux pardonner ? Alors elle me dit, ah, de moi-même, je ne peux pas pardonner. Et je lui ai posé la question, qui es toi-même ? Qui es-tu ? Comment te vois-tu ? Et c'est là où on a un problème, nous chrétiens. On sait dans notre tête que nous sommes enfants de Dieu, que Dieu, que Christ nous habite, et à côté de ça, on essaye de marcher comme avant, c'est-à-dire par moi-même. Dieu ne nous voit plus par nous-mêmes, il nous voit en Christ. Et en Christ, nous pouvons le faire. Est-ce que vous me saisissez ? Nous avons un problème, nous sommes schizophrènes, c'est-à-dire double personnalité. Nous savons dans notre tête que nous sommes acceptés par Dieu. Et dans la pratique, nous portons notre vie à bout de bras. Et je vais juste vous dire cette phrase avec laquelle je vais terminer. Si vous pensez que Dieu est vous, que Christ est vous, vous êtes deux séparés, vous êtes perdus pour votre vie chrétienne. Vous m'avez suivi ? Si vous pensez que Christ est vous, vous êtes deux séparés, vous êtes perdu, vous n'allez jamais arriver. Et Dieu ne vous voit pas comme ça. Dieu ne nous voit plus en nous-mêmes, il nous voit en Christ. Notre sort, notre destin, notre vie est irrémédiablement lié à Christ. Tu es en Jésus-Christ, plus de condamnation pour toi. Tu es en Jésus-Christ, c'est timide lui, hein. Mes frères, évidemment. Évidemment. Et il dit, celui qui est uni à Christ, un seul esprit avec lui. Et nous, on est... un Corinthiens 6, un seul esprit avec lui. Nous sommes liés, une seule plante, unis, indissociables de la vie de Christ. Si vous pensez, demain, lundi, que Christ va marcher à côté de vous, et vous, vous allez marcher et vous allez essayer de vous réconcilier et d'essayer de... Vous savez, c'est pas faux, pas tout à fait faux de marcher avec le Seigneur. Mais la vie de Christ est notre vie, Colossiens 3. et nous sommes irrémédiablement liés à Christ. Donc demain, ce soir, tout à l'heure, vous allez rencontrer une circonstance que vous n'aurez pas prévue, que vous ne savez pas comment faire, mais vous n'êtes pas obligé de vous débrouiller tout seul. Nous sommes liés à la vie de Jésus-Christ. Et ça, pour moi, c'est le cœur de ma vie. Ça veut dire que, vous savez, on dit souvent, le Seigneur pouvait dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et votre passion, c'est quoi? Je ne parle pas de votre passion en tant qu'homme non régénéré, ou une femme non régénérée, non, mais en tant qu'enfant de Dieu. Ma passion, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est pour moi le moteur. Et on va voir la main de Dieu bouger dans nos vies. Pourquoi ? Parce qu'on est indissociable. Romains 5, verset 10. Non seulement nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, plutôt donc maintenant serons-nous sauvés par sa vie. Sauvés, pas le salut de l'âme, c'est sauvés dans nos circonstances. Et nous allons apprendre à écouter sa voix. Et une non-réponse de Dieu est encore une réponse. Enfin voilà, c'est bien possible de bien vivre. C'est tout à fait possible de bien vivre dans notre famille. Pourquoi ? Parce que le grand changement, c'est la présence de Christ en nous.